και μας στέλνει ένα μεσάκι.
Είναι το Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et toute sa diversité. Ce soir, c'est avec Karina Branco de la rédaction lusophone, sachant que le Portugal est au bord d'élections législatives anticipées. Pour la rédaction en espagnol, Natalia Olivares,
qui nous
parlera d'un fragment d'une stèle maya du 8e siècle, remis par une collectionneuse française à son pays d'origine, à savoir le Guatemala. Et puis, Michael Fitzpatrick, de la rédaction anglophone.
Good evening, Philip.
Pour les Fish War, entre pêcheurs français et l'ennemi anglais. Fish War, la guerre de la pêche. Ce qui fait la une de l'actualité, ce sont d'abord les accusations dont doit répondre Facebook. On appelle aussi cela les Facebook Papers. Ces accusations sont portées par une ancienne de ses cadres dirigeantes et cela concerne des algorithmes mal maîtrisés du réseau social. Il y a aussi des failles dans la modération, dans différentes langues qui favorisent les discours de haine. Alors, cette polémique intervient au moment où Facebook affiche des bénéfices records et préfère regarder devant. C'est l'avenir qui intéresse le groupe, Michael Fitzpatrick.
Oui, absolument. Nous avons entendu Mark Zuckerberg cette semaine. Il n'avait rien à dire sur les Facebook Papers, presque davantage sur les 9 milliards de dollars de bénéfices empochés par son entreprise les 3 derniers mois. Alors, Monsieur Zuckerberg avait quelque chose de beaucoup plus important à nous expliquer.
I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. Still about bringing people together.
Alors, qu'a-t-il dit?
Vous avez bien compris. Facebook n'existe plus. Il faut l'appeler Meta. Mais les objectifs restent les mêmes. C'est pour aider les gens à être ensemble. Ne dis rien des bénéfices colossaux, s'il vous plaît, ni des problèmes de haine en ligne, d'insultes, des suicides de jeunes harcelés par leurs confrères. Laurent Soli, le patron de Facebook France, est, quant à lui, très enthousiaste. Le métavers, c'est certainement le nouveau chapitre de l'Internet, a-t-il expliqué à la radio ce matin même. C'est le futur de la technologie et certainement de la technologie sociale. C'est un projet européen, même si Monsieur Zuckerberg reste en Californie, et ça va créer des emplois. Meta va embaucher 10 000 personnes dans l'Union européenne pour contribuer à la création du métavers.
Alors, métavers, soyons encore plus précis, c'est quoi? C'est un univers en ligne où les utilisateurs interagissent dans des espaces virtuels partagés?
Si vous voulez, c'est comme un marché, mais sans étal, vous voyez. Souvent, l'Europe a semblé penser qu'elle n'était pas dans le mouvement de l'innovation, estime Laurent Soli. L'Europe a une chance avec le métavers, dit-il. Elle a l'occasion d'être une locomotive de cette révolution technologique. Il mélange les pinceaux un peu avec sa locomotive, mais passons. Parce que derrière les espaces virtuels qu'on évoque, ce sont les emplois de demain. C'est l'innovation de nos entreprises, grandes et petites. C'est la compétitivité de nos sociétés. Et c'est notre force d'attractivité aussi sur nos territoires des meilleurs talents, dit-il. Apparemment, l'expression « nos territoires des meilleurs talents » est compréhensible dans le métavers.
Oui, enfin, tout ça, ce sont de belles déclarations d'intention. mais Facebook ne dit finalement rien sur qui s'assurera que le contenu du site n'est pas raciste, sexiste ou tout simplement nocif.
Rien. Selon la lanceuse d'alerte, il y a une incapacité systémique de l'entreprise à remédier aux effets néfastes de ses produits pour ne pas entraver l'augmentation de fréquentation et de ses bénéfices. Elle accuse Facebook d'avoir supprimé sciemment des filtres contre la désinformation pour gonfler le trafic des plateformes. Mais M. Mark Zuckerberg n'a pas l'air trop inquiet. Vu leur pouvoir, les ressources dont ils disposent, leur ubiquité, qui sera chargé de faire respecter les nouvelles règles aux géants numériques et qui sera suffisamment fort pour les faire respecter.
Alors, la lanceuse d'alerte, elle a un nom, c'est Frances Haugen. Elle sera auditionnée à Paris le 10 novembre par les députés français. Puis elle sera entendue par une commission du Parlement européen, ce sera le 8 novembre. Et puis, lundi dernier, Karina Branco, c'était par les parlementaires britanniques qu'elle avait été entendue. C'est donc une véritable tournée européenne que fait cette ancienne employée de Facebook.
En effet, Philippe, cette tournée passe aussi par le Portugal lundi prochain.
prochain, Frances Haugen va participer à l'ouverture du Web Summit de Lisbonne. Le but de cette tournée européenne étant de dénoncer les révélations montrant que Facebook a conscience de la nocivité de sa plateforme, les fameux Facebook Papers. Alors, selon cette lanceuse d'alerte, Facebook connaissait les dangers, notamment les contenus toxiques sur Instagram pour les adolescentes, la désinformation qui nuit à la démocratie, etc. Mais Facebook aurait choisi de les ignorer pour préserver ses profits. Les dernières révélations accusent la plateforme de ne pas être capable de réguler les discours haineux dans le monde, faute de manque de médiateurs non anglophones.
Quant au journal portugais Publico, il remarque que Facebook rassemble plus de 15 000 modérateurs.
Mais ce n'est pas un nombre si ahurissant que ça, si l'on considère qu'il y a 2,8 milliards de personnes qui accèdent quotidiennement aux outils de Facebook. C'est-à-dire qu'il y a environ un modérateur pour 186 000 utilisateurs. Et toutes les langues ne sont évidemment pas maîtrisées par la majorité des modérateurs. Nous avons parlé avec Ricardo Lafuente, vice-président de l'association portugaise des droits, défense des droits digitaux. En plus, comme on est en pleine crise politique au Portugal et que depuis mercredi soir, nous nous dirigeons probablement vers des élections législatives anticipées.
On en parlera tout à l'heure. Oui.
Exactement. Ce spécialiste craint une remontée de l'extrême droite au Portugal et grâce à Facebook.
E o Facebook é um instrumento ideal para assegurar que podem ter uma influência desproporcionada bem para além das leis eleitorais, por exemplo. O Facebook, por exemplo, as leis
que vous a dit Ricardo Lafuente?
Alors, il dit que Facebook est l'outil idéal pour que l'extrême droite ait une influence disproportionnée avant les élections en profitant des algorithmes qui exploitent les messages de haine. En plus, les lois électorales sont très en retard pour gérer Facebook et les messages de haine. Il y a aussi tous les groupes, faux ou pas, qui se créent au-delà des partis politiques. Il y a les faux comptes aussi. Donc, il explique qu'il n'y a tout simplement pas de structure dans notre système démocratique pour contrôler tout ça. Alors, il est convaincu que oui, l'extrême droite en profitera. Ça se fera discrètement avec Facebook, comme aux États-Unis. Et il n'a aucun doute que Facebook sera instrumentalisé, comme il l'a été par différents mouvements de la droite radicale, que ce soit au Portugal, en Hongrie, au Brésil ou aux États-Unis.
Il y a donc des failles, Karina Branco. Comment se prémunir contre elles?
Et c'est justement le problème. Ce spécialiste nous explique qu'il faut arrêter de parler de failles, parce que c'est la façon même dont a été dessiné Facebook qui a permis la prolifération de messages de haine. Pourquoi ? Parce que les contenus polémiques génèrent plus de commentaires, plus d'émotions, plus de temps que les utilisateurs consacrent à Facebook et donc plus de pubs et de revenus pour la plateforme. Et c'est un cercle vicieux. Écoutons.
Isto não acontece por causa de falhas existentes. Isto não é uma falha. O sistema está a funcionar exatamente como estava desenhado.
Alors, quelles sont ses explications?
Alors, il souligne qu'il ne s'agit pas de faille, que le système fonctionne exactement comme il a été conçu. Ça n'a pas été fait pour transformer le monde dans un pire endroit, mais améliorer le monde n'est certainement pas une priorité parce que les revenus générés par le maximum d'interactions et d'attention sont la base de la prolifération des messages de haine sur Facebook. C'est ça qui permet à Facebook de vendre plus d'annonces, donc le système est en train de fonctionner tel que prévu.
Autre question, qu'est-ce que les simples utilisateurs que nous sommes finalement peuvent faire pour faire face à tout cela, Karina?
Et selon Ricardo Lafuente, nous ne pouvons presque rien faire et ce n'est pas non plus notre rôle. C'est indéniable, Facebook est une pièce incontournable de l'infrastructure sociale contemporaine. Il faut une législation au plus haut niveau des États. Il souligne que le système joue contre nous et qu'on ne peut pas demander aux citoyens lambda de se protéger alors qu'il est devant un ennemi invisible et devant des algorithmes qui exploitent ses centres d'intérêt et ses émotions. Que faire donc? Pour ce spécialiste portugais, idéalement, il faudrait ne pas avoir un compte Facebook avec tous les inconvénients que ça implique. Sinon, il faudrait rester le moins de temps possible avec la page ou l'application ouverte. Cependant, encore une fois, ce n'est qu'au plus haut niveau de l'État que l'on peut considérer une sortie de cette cet étrange bourbier digital, comme il l'appelle, et qui, selon lui, s'attaque aussi à la santé mentale des gens quotidiennement.
Tout cela, finalement, Natalia Olivares, nous ramène quelque part un an en arrière, hein, lors de la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, qui a impacté la communauté hispanophone vivant en Amérique.
Et oui, rembobinons un petit peu et voyageons vers un an en avance, c'est-à-dire en novembre 2020, si je ne me trompe pas. Et ce que les Facebook Papers ont révélé, c'est le blocage par Mark Zuckerberg d'une campagne de sensibilisation du vote latino. Finalement, on parle plus d'une confirmation d'un doute que d'une révélation en elle-même, car WhatsApp avait bien proposé le projet de monter une campagne qui viserait à informer les votants hispanophones sur leur droit de vote et sur le processus d'inscription. Or, Facebook, selon les documents publiés par la lanceuse d'alerte Frances Haugen, Facebook a décidé de ne pas mener à bien ce projet et ce manque d'information avait été signalé et largement critiqué sur le moment, donc en novembre et avant novembre 2020. Et Victoria De Francesco, politologue, s'est exprimée chez nos confrères de Telemundo à ce sujet. On l'écoute.
Es la confirmación de las sospechas que teníamos. Sabemos que a través de los últimos años ha crecido la desinformación.
Qu'a-t-elle dit donc? Qu'a-t-elle déclaré sur Telemundo?
Alors pour elle, c'est la confirmation de ce que tout le monde redoutait, car on a bien noté l'effort de Facebook pour mobiliser les nouveaux électeurs à participer au vote, mais rien n'a été fait pour la communauté hispanophone concrètement. Au contraire, que ce soit sur Facebook ou WhatsApp, la désinformation, selon elle, n'a fait que croître aux États-Unis sur le plan politique. Et précisément pendant les élections présidentielles de novembre dernier. La lutte contre la désinformation a bien été menée, selon Victoria De Francesco, sur les réseaux sociaux, en anglais, mais pas en espagnol, et cela reste très très inquiétant.
Autre question, quel a été l'argument de Facebook pour ne pas faire cette campagne en espagnol, sachant que l'électorat hispanique aux États-Unis est de plus en plus important?
Alors Facebook est toujours, encore une fois, selon le Wall Street Journal, qui a relayé donc ces informations, a brandi l'argument qui consiste à dire qu'une campagne en espagnol aurait été perçue comme une campagne favorisant un camp plutôt qu'un autre, en d'autres termes, une campagne impartiale. Or, pour Victoria De Francesco, cet argument n'a pas de sens, ou il est plutôt l'aveu du contraire, c'est-à-dire qu'en laissant les hispanophones en dehors, Facebook favoriserait clairement le camp républicain. On l'écoute si vous voulez bien.
Bueno, pues la realidad es que la mayoría de los latinos en los Estados Unidos sí votan por el Partido Demócrata.
Alors, elle parle du vote hispanique. Hein.
Voilà, pour elle, il est clair que l'électorat d'origine hispanique tend de plus en plus à voter démocrate. Enfin, c'est de moins en moins vrai. Et le fait que cette campagne ait été avortée est grave pour les droits des électeurs hispanophones particulièrement, mais aussi et surtout pour la démocratie aux États-Unis.
Revenons à ce que dit Frances Haugen. Elle parle donc des failles de Facebook, de ses algorithmes qui ne protègent pas les usagers, des contenus violents et de contenus qui pourraient déstabiliser tout simplement des gouvernements. C'est le cas au Mexique. Hein.
C'est le cas au Mexique, Philippe, avec des pages et des communautés entières Facebook contrôlées par les cartels de la drogue.
Alors ce sont des coups de feu hein, qu'on entend dans cette vidéo.
Voilà, des coups de feu qu'on entend sur une vidéo. C'est une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux en juillet dernier. Impressionnante par le contenu violent et à la fois politique. Cette vidéo montrait des dizaines d'hommes qui brandissaient leurs armes en file indienne aux côtés d'immenses chars blindés flambant neufs et en arborant les insignes de la troisième organisation plus dangereuse au monde après la mafia italienne et la russe. Il s'agit du cartel de Jalisco Nueva Generación. Cette vidéo a été perçue clairement comme un message direct envers le gouvernement fédéral, donc de Manuel López Obrador.
Et puis on entendait des gens scander quelque chose, quoi?
Alors, ils scandaient le nom El Mencho. El Mencho, c'est la tête du cartel de Jalisco Nueva Generación. Il s'appelle en réalité Nemesio Oseguera, un des plus puissants qui concerne le trafic de drogue. Leader en transport de cocaïne, héroïne, drogue synthétique, marijuana, et maintenant dans le trafic illégal d'hydrocarbures, une multinationale qui fait partie de la liste des entités à bannir pour Facebook. Et pourtant, cette vidéo a été filmée en plein jour et elle est devenue virale. Elle a fait office donc de déclaration officielle de guerre frontale. Facebook a déclaré que les contenus de ces pages avaient été effacés. Mais ce cartel, comme beaucoup d'autres, continue à opérer à travers ce réseau jusqu'à même recruter recruter des jeunes, en général des communautés les plus pauvres, en organisant des camps d'entraînement carrément à travers Facebook avec des rendez-vous pris sur ce réseau social. Et l'équipe des journalistes du Wall Street Journal a repéré en plus des pages qui permettraient le paiement de tueurs à gages.
Sur Facebook. On fait le commerce de la mort sur Facebook.
Et voilà, et on en conclut aussi donc que les algorithmes de Facebook ou Instagram n'ont pas plus assuré le retrait immédiat de ces contenus violents. On pouvait en plus voir des exécutions en direct et l'apologie à la violence. Ce sont donc vraiment des publications signées de leurs propres mains.
Enfin, c'est vraiment des cartes à de la droite. Zuckerberg, de son côté, est accusé finalement de fermer les yeux, puisque on peut supprimer après, mais n'empêche que le mal est fait. Ça a été vu.
Alors Zuckerberg dit avoir effacé ses données. Alors on peut très facilement prouver le contraire. Il y a toujours et aujourd'hui des dizaines d'usagers qui postent leur profil vous voyez, quand il y a dans leur profil, il y a à propos, et bien à propos, travail à 2. Cartel Jalisco Nueva Generación. On pourrait rajouter une dernière information. L'organisme qui combat le crime en ligne, qui s'appelle ACCO, a publié un rapport dans lequel il affirme que les stratégies des cartels de la drogue en Amérique latine sont similaires à celles empruntées par les djihadistes de l'organisation État islamique. Facebook est leur vitrine. Elle leur donne une visibilité et permet que leur propagande fonctionne bel et bien. Encore une fois, Facebook est accusé de ne pas protéger ses usagers dès lors qu'ils ne se trouvent pas dans la bonne zone géographique. Mais maintenant, comme le disait Michael, tout va changer puisque Facebook n'est plus Facebook.
Mais Meta, est-ce que ça changera vraiment quelque chose dans le fond? En tout cas, là, on parle bien de Facebook, celui qu'on a tous sur nos téléphones, que nos gamins ont tous, et non pas du dark web où on retrouve cela et bien pire encore. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
$30.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
L'actualité cette semaine, et en cette fin de semaine, c'est cette question. Est-ce qu'on risque de voir éclater une guerre de la pêche entre Paris et Londres? Il y a eu une escalade donc cette semaine autour des licences de pêche, liées à l'actualité post-Brexit, bien évidemment. Un bateau britannique immobilisé, accusé par la France de pêche illégale. 2 autres chalutiers verbalisés. Bref, le ton monte. Il y a eu des consultations entre ambassadeurs, échanges de mots peu diplomatiques entre ministres. L'ambassadrice française à Londres appelée par le gouvernement pour rendre compte. C'est un complot pour assurer la réélection d'Emmanuel Macron, écrit la presse britannique. Michael Fitzpatrick, journaliste irlandais au sein de la rédaction anglophone de RFI, expliquez-nous les tenants et les aboutissants.
Bon, les Anglais, vous savez, aiment les batailles navales. Drake, Trafalgar, Nelson, les Malouines, Churchill avec son « on va les affronter sur les plages ». C'est dans leur sang, leur mythologie nationale, insulaire comme ils sont. Il faut savoir d'abord que la plupart des pêcheurs britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne. Et ils sont très déçus depuis parce que les promesses faites au secteur au moment du Brexit, de sorte « vous allez reprendre contrôle de vos eaux, on va expulser les Français, les minables espagnols », ces promesses, comme tant d'autres d'ailleurs, ne sont pas tenables. Et le problème de base, c'est-à-dire la surpêche, ne peut pas être résolu par une seule nation. Comme l'a souligné un pêcheur anglais, il n'y a plus de poissons, les Français en souffrent et nous aussi. Selon le patron de la Fédération britannique des organisations de pêcheurs, qui s'appelle Barry Deas, la France a politisé un problème technique avant leur élection présidentielle.
We find it difficult to understand why it has been escalated to the political level.
Quels sont ses commentaires, Michael?
Il dit qu'il a du mal à comprendre pourquoi c'est devenu une question politique. Selon lui, la seule façon de lire cette escalade, c'est de la remplacer dans le contexte français actuel, avec des élections sur l'horizon. Et il continue avec l'observation que les discussions se sont déroulées de manière parfaitement civile et constructive, à la fois avec l'Union européenne et avec la France, Donc, le problème ne se situe pas à un niveau technique, selon Barry Diaz. Et ces propos sont partagés par George Eustace, le ministre de l'Environnement à Londres. Ce matin, M. Eustace était interrogé dans l'émission Today sur BBC 4, et voici une partie de ses dires.
Two can play at that game, is what I would say. But in the first instance, what we're doing is raising this with the European
que
Commission.
Que dit George Eustace?
C'est assez musclé comme présentation de la situation. Il commence avec les deux parties peuvent jouer ce jeu. D'abord, dit-il, nous sommes allés voir les autorités européennes parce que ce sont eux qui parlent pour les Français sur ce genre de différends. Puis, selon Monsieur Eustace, on a demandé des explications à l'ambassadrice française et on attend pour voir comment la situation va évoluer, notamment à partir de mardi prochain, jour à partir duquel Paris a menacé de restreindre davantage nos pêcheurs. On va réagir de façon mesurée, n'est-ce pas?
Et puis le ministre a également dit que ce n'était pas probablement un hasard s'il y a bientôt des élections présidentielles en France.
Ouais. Et il a dit ça sans préciser sa pensée. Ce qui est clair, c'est que pour les pêcheurs britanniques, la polémique sur les droits de pêche est une menace de plus sur le secteur, déjà touché par la chute des exportations post-Brexit, les conséquences du Covid ou encore l'essor des sociétés de pêche internationales au détriment des indépendants.
On verra bien ce qui se passe au cours de ces prochains jours. C'était Michael Fitzpatrick de la rédaction anglophone de RFI. On le disait tout à l'heure, le Portugal semble être au bord d'élections législatives anticipées. Alors bien sûr, de cette actualité politique, il en est largement question sur l'antenne et le site lusophone de Radio France Internationale. Karina Branco, détaillez-nous cette crise politique.
Alors, ce mercredi, le Parlement a ouvert la voie à la convocation de législatives anticipées en rejetant le projet de budget pour 2022 du gouvernement socialiste. Le Premier ministre, António Costa, a été lâché par ses anciens alliés de la gauche radicale et c'est la fin de cette fragile alliance qui était restée connue comme « geringonce », une expression désignant un peu un attelage de fortune. Cet échec n'impliquerait pas automatiquement la chute du gouvernement ou l'anticipation des législatives prévues au départ pour l'automne 2023, mais le président conservateur, Marcelo Rebelo de Sousa, avait averti qu'il userait de son pouvoir de dissolution de l'Assemblée en cas d'impasse, ce qui entraînerait la convocation de nouvelles élections.
Et pourquoi donc précisément?
Voici la réponse du président.
Si l'Assemblée entend que non está en condições d'approuvar un orçamento qui est fundamental pour le pays.
Alors, il dit que si l'Assemblée n'est pas en mesure d'adopter un compromis budgétaire qui est en ce moment fondamental pour le pays, alors il vaut mieux rendre la parole aux Portugais, même si pour lui ça entraîne une perte de temps pour approuver le budget. Donc, le président portugais recevra les différents partis à partir de demain, avant une réunion spéciale de son Conseil d'État prévue mardi prochain. On en saura plus, semaine prochaine donc. Le Premier ministre, António Costa, a exclu de démissionner de son propre chef et il a promis de mener son camp en cas d'élection anticipée et a déjà entamé la campagne électorale en demandant une majorité stable et renforcée.
Mais c'est aussi parce que uns acham que sou otimista, mas sobretudo sou confiante no meu país e nos portugueses.
Quels sont les arguments du Premier ministre portugais?
Alors, il commence par dire que même si on le voit comme un optimiste, il a beaucoup de confiance dans son pays et ses électeurs. Il avoue que le rejet du projet de budget est certes une victoire de la droite, mais obtenue au prix de lourdes pertes, alors il espère convertir sa frustration en une majorité renforcée, stable et durable dans le futur. C'est-à-dire que le Portugal comptait émerger finalement de la crise sanitaire grâce au succès de sa campagne de vaccination, mais là on retombe sur des eaux politiques un peu inconnues. Les spécialistes craignent même la percée de l'extrême droite qui avait surpris lors des présidentielles de janvier dernier. D'autant plus qu'à droite, les deux partis conservateurs sont en proie à des disputes internes et à des élections internes aussi.
Voilà pour la politique au Portugal. Un mot, Carinière Boncourt, sur ce qui se passe au Cap-Vert, dont nous avions parlé dans une précédente édition d'Accent du Monde.
Tout à fait, on en avait parlé, du coup je voulais en revenir. Eh bien, le candidat socialiste José Maria Neves a gagné au premier tour avec 51,7% des voix face à son adversaire du centre droit, Carlos Veiga, qui a lui obtenu 42,4% des suffrages lors des présidentielles du 17 octobre. Ça veut dire que le gouvernement du MPD va devoir cohabiter avec un président du PAICV, José Maria Neves, qui a été chef du gouvernement de 2001 à 2016, doit prêter serment le 9 septembre. Les observateurs de la CDAO et de l'Union africaine ont souligné la bonne tenue des élections. Donc le Cap-Vert a de nouveau confirmé son image d'un pays des plus exemplaires en matière d'élections libres et transparentes en Afrique. Pour le président élu, la priorité est dépasser la crise de la pandémie de la COVID-19.
Estamos numa pandemia, há grande desgaste físico e emocional.
Que nous dit le président capverdien?
Il nous dit que nous sommes dans une pandémie, on le sait, qu'il a une grande usure physique et émotionnelle générale. Il y a aussi une grande vulnérabilité. Il rappelle que cette pandémie a causé d'énormes pertes. Il se montre heureux que tout se soit décidé finalement au premier tour des élections. José Maria Neves ajoute que le grand adversaire est la crise économique qui s'est aggravée avec la pandémie et il se dit prêt à travailler avec le gouvernement en cohabitation.
Voilà donc pour la politique avec Carinière Boncourt de la rédaction lusophone de RFI. Venons-en à ce fragment d'une stèle maya datant du 8e siècle qui a été remis lundi à Paris par une collectionneuse française au Guatemala, son pays d'origine. Natalia Olivares, c'est une information qui coïncide avec la restitution au Bénin de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, conservés jusqu'ici au musée du Quai Branly. Mais cette restitution est particulière car il s'agit donc du Guatemala et que son histoire est finalement passionnante.
Voilà, il s'agit d'un fragment d'une stèle très importante pour les Guatémaltèques qui ont reçu l'information avec émotion car elle va permettre de reconstituer une partie de l'histoire des Mayas. Et oui, il faut dire, Philippe, que son histoire est passionnante, qu'elle a échappé de peu à une vente aux enchères, ce qui aurait pu la faire disparaître à jamais, ou en tout cas du domaine public. Orlando Torricelli, donc de la rédaction hispanophone, a recueilli la réaction de l'ambassadeur du Guatemala à Paris, Francisco Gross Hernandez.
Estaba ubicada en Piedras Negras y además es parte de la historia de los pueblos originarios y lo que sucede.
Il explique d'où vient cette stèle, enfin ce morceau. Hein.
Il explique ce morceau vient de Piedras Negras, un site archéologique qui a été pillé et ce qui est très important parce que c'est là où les archéologues guatémaltèques ont découvert en 1930 ou en 1940 que les dessins qui figurent sur les stèles n'étaient pas seulement de l'art mais aussi contenaient des informations sur les dates des gouvernants mayas ou sur le contexte de guerre ou encore sur des situations précises de cette époque. Et ça, c'est très important. Et il ajoute pourquoi elle a disparu.
Et luego la importancia que tiene para el pueblo de Guatemala y para los pueblos que conforman la población guatemalteca.
Alors, il ajoute que on récupère une pièce déterminante de l'histoire des Guatémaltèques de plus de 1300 ans, alors que cette stèle avait disparu pendant le conflit, un moment où il y avait beaucoup, beaucoup de pillages dans ce pays.
Bah justement, comment a-t-on pu remettre la main dessus après tant d'années?
Alors, on va expliquer cette histoire assez passionnante. En 2019, pendant une vente aux enchères de la collection privée du couple Orance, les autorités du Guatemala avaient donc vu sur le catalogue qu'il existait, ce fragment allait être vendu. Et ils avaient affirmé, donc les autorités, preuve photographique à l'appui, que ces fragments venaient du site archéologique maya, donc Piedras Negras. Et à ce moment-là, Manishak Orance, la propriétaire a donc décidé de retirer l'objet de la vente et d'entamer des négociations avec le pays. Le Guatemala, donc pays signataire, comme la France, de la Convention de 1970 sur l'interdiction de l'importation, l'exportation et le transport illicite des biens culturels. Madame Orance a expliqué lors de la cérémonie officielle de restitution qu'elle avait acheté la pièce dans les années 1960 chez un antiquaire de Paris et elle assure que tant elle que son mari ignorait totalement que l'œuvre a été pillée. Elle ajoute qu'aujourd'hui, son vœu le plus cher, c'est que ce fragment rejoigne le reste de la fresque et sera bientôt en chemin vers son pays.
Et ça a été possible à travers, grâce à une négociation délicate.
Une négociation délicate entre les autorités du Guatemala, l'UNESCO, la France et Madame Orange, qui pourra ouvrir des portes à d'autres pays d'Amérique latine qui voudraient récupérer leurs œuvres, comme le Mexique par exemple, qui réclame la restitution d'objets préhispaniques mis aux enchères en France aussi.
Voilà, donc on se rend compte que finalement, ces histoires de restitution concernent tous les pays du monde, tous les continents du monde, qu'il s'agisse de préemption, de pillage durant les colonies ou pas. C'était Accent du Monde avec vous à l'instant, Nathalie Olivares de la rédaction hispanophone de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI.
Carrefour de l'Europe, Juliette Rangevin.